Marina au micro de Radio Victoria, on retrouve maintenant le docteur Till Pfelff-Banderhoff, directeur de recherche pour Ocean Asia. Nous allons parler ensemble de pollution marine. Bonjour Till.
Bonjour, ça va bien?
Ça va, je vous remercie. Vous êtes très occupé en ce moment. Vous étiez en train de rédiger justement un article aussi pour un reportage qui concerne la pollution marine.
Mm-hmm.
Donc on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Récemment, 8,3 millions de dollars ont été accordés par la province pour éliminer justement ces équipements fantômes, ce qu'on appelle en fait les engins de pêche fantômes qui sont récupérés dans les océans. C'est du matériel de pêche perdu ou jeté. Ça existe toujours alors?
Ouais, c'est ça. Alors, le grand problème avec les filets fantômes, c'est que quand les pêcheurs perdent un engin de pêche, ça continue de pêcher et ça peut continuer de pêcher pour de nombreuses années. Par exemple, le monofilament, qui est un matériel commun dans beaucoup d'engins de pêche, prend plus de 600 ans pour décomposer en microplastique. Alors, ça continue de pêcher, de tuer des animaux pour des ans et des ans. Et ça fonctionne d'une façon yo-yo. Alors, ce qui se passe, c'est le filet remplit des animaux morts, et il devient une touffe, et puis jusqu'à la fond marin, puis des animaux décomposent, et le filet ouvre encore, continue de pêcher et répète le cycle. Alors comme ça, un grand nombre d'animaux marins sont tués par les équipages des filets fantômes. Et c'est non pas seulement les poissons, les invertébrés, mais en plus de ça, les filets fantômes pris des autres poissons non ciblés, ils peuvent empêtrer des mammifères marins et des tortues des autres espèces. Et quand un animal devient empêtré dans un filet fantôme, il peut être tué directement, mais plus souvent que ça, il peut amputer les membres, étouffer les animaux lentement, ou aussi les animaux peuvent meurent de faim lentement. Mais en plus de ça, les filets fantômes font des autres mal sur l'écosystème marin. Ils peuvent étouffer les récifs marins et récurer des espèces benthiques délicates comme les coraux mous. Et il peut servir comme un lien de transporter des espèces envahissantes. En plus d'endommager les écosystèmes marins, ils volent des pêcheurs. Alors, il y avait une étude dans le nord de l'Angleterre qui a déterminé que presque 30% de la population des pêches, dont cette pêcherie, a été tuée par les filets fantômes. Et en plus de ça, ils créent des feedback loops positifs. De cette façon, les filets perdus ont perdu les équipages de pêche actifs et cause la perte de cet équipage, et ça continue à cycler encore. Alors, les programmes de la pêche et océan qui vont récupérer ces filets fantômes sont très bons parce que ça va sauver les animaux, ça va sauver les poissons que les pêcheurs peuvent attraper, et ça va améliorer l'environnement marin.
Till, vous étiez en train de dire que ça prend 600 ans pour que le filet finalement se désintègre. Pourquoi finalement ne pas utiliser des filets avec des matériaux qui finalement, c'est ça, en juste quelques mois peut-être, pourrait se désintégrer dans l'océan si jamais ils étaient amenés à être perdus?
Mais ça, c'est une très bonne question. Et essentiellement, c'est plus important d'éviter les filets fantômes d'entrer l'environnement ou de créer des engins qui peuvent décomposer plus rapidement. Le problème, c'est que c'est coûteux. Et pour les pêcheurs, si on a un engin qui décompose rapidement, ça va aussi... ils auront besoin de remplacer l'engin plus souvent que ça. Alors, on trouve que les matériels les moins chers sont aussi les uns qui restent plus longtemps que ça. Et il y a des grands nombres de ça. Comme par exemple, les statistiques sur le sujet de la grandeur, le taux de perte d'engins de pêche global sont très grands. C'est entre 640 000 et 800 000 tonnes par année sont perdues. Et par exemple, juste pour contextualiser le dommage des filets fantômes, il y avait un programme de récupération en Washington, au sud de nous. Ils ont récupéré 870 filets. Dans ces filets, ils ont trouvé 32 000 animaux marins. Plus des animaux étaient morts, et ça inclut plus de 500 oiseaux et mammifères. Alors, c'est un programme très grand, et la solution, c'est d'enlever les engins de l'océan, mais aussi d'éviter les filets d'entrée de l'environnement marin et aussi d'avoir des engins qui ont été engineés d'une façon qui ne décompose plus rapidement.
Alors là, on a Pêche et Océan Canada qui a établi un fonds de 8,3 millions de dollars pour s'attaquer au problème. Alors, quelle est leur idée? Comment ils vont attaquer ce problème-là?
Bien, ici, en Colombie-Britannique, il y a des différents. Il n'y a pas beaucoup d'informations à propos des nombres exacts. Alors, les numéros que je vous avais déjà donnés, ça vient des autres pêcheries. Mais ici, il y avait une étude dans Puget Sound, dans les États-Unis, et un programme de récupération par le Northwest Straits Initiative a récupéré 4 000 filets et 2 500 pièges depuis 2002. Et ils ont estimé que ces engins ont tué plus de 2 millions d'animaux par année. Et ici, en Colombie-Britannique, les plus grands types d'engins fantômes sont des filets mêlants. Et ce n'est pas souvent tout le filet, mais c'est plutôt des portions, des petites pièces du filet qui sont perdues à cause des accrochages sur la mauvaise fond. Et mais aussi, il y avait des pièges de crabes. Et une estimation a dit qu'il y a 6 000 pièges commerciaux qui sont perdus par année. Bon, beaucoup de ces pièges sont récupérés et les fonds de la pêcherie du département de pêche. Et aussi, on paye pour la récupération de ces filets. Mais aussi, dans la mer Salish, il y a beaucoup de filets héritage. Et ça veut dire que le filet a été perdu dans les années 70. Maintenant, on a le meilleur programme de reportage. Alors, quand un pêcheur perd un filet, il y a un programme pour reporter ça à le gouvernement et peut récupérer. Mais dans les années 70, il n'y avait pas. Et quand j'ai recherché ce sujet pour le Global Coast Gear Initiative il y avait quelques ans, on a trouvé des histoires, des filets qui étaient accrochés sur les roches autour de nous ici, dans la mer Salish, qui étaient là depuis des vingtaines d'années. Alors, il y avait un exemple d'une scène tournant, un purse scene, qui était accroché sur les roches de l'île de nord du Pender. Il était là depuis 20 ans et en 2011, il y avait une opération jointe avec le gouvernement de Colombie-Britannique et le Northwest Straits Initiative. Ils ont enlevé seulement une moitié de le filet. Il est resté encore là. Alors, les programmes comme celui-ci vont être importants pour enlever le reste de cette scène tournante au nord de l'île Pender et les autres filets qui sont tout autour de nous dans l'océan qui continuent de tuer les animaux.
Vous parliez de pièges pour attraper les crabes. Donc, cela concerne aussi, par exemple, les personnes qui font ça de façon personnelle, sans forcément être dans l'industrie de la pêche. Donc, c'est à tous les niveaux, alors que ce problème existe.
Oui, c'est ça. Alors, je ne connais pas les nombres pour les pièges non commerciaux, les pièges de crabes, mais ouais, il y en a beaucoup. Avec les pièges, c'est un peu moins endommageant pour l'environnement que les grands filets comme les scènes tournantes parce qu'ils sont plus petits et remplis d'animaux morts plus rapidement et c'est plus facile d'être écrasé par les animaux et les autres choses comme ça. Et aussi, les pêcheurs, c'est plus facile de récupérer un piège de crabe. C'est compliqué de récupérer les grands filets. Par exemple, on a besoin de l'équipement spécialisé, on a besoin des personnels, des plongeurs. C'est un peu dangereux des fois. On a besoin des plongeurs expérimentés avec l'équipement spécialisé. Et des fois, ça peut prendre des jours. Alors, c'est plus facile d'enlever un piège qui est perdu qu'un filet. Mais encore, ça coûte d'argent et c'est comme ça, c'est bon que le gouvernement a créé des programmes pour récupérer des filets fantômes.
Notamment récemment, il y a l'association BC Shellfish Growers Association qui a reçu 350 000 dollars. Donc, cette association, en fait, est la voix de toute l'industrie des crustacés de la Colombie-Britannique. 350 000 dollars, finalement, ça ne serait même pas assez.
Non, c'est pas beaucoup, mais c'est un commencement. C'est un processus continuel. Comme j'ai dit, il y a souvent des exemples des temps d'enlever des différentes portions et pièces de filets qui sont perdus. Mais c'est important qu'on ait le soutien, que les pêcheurs ont le soutien du gouvernement. Comme cette industrie-là, leur grand concern, c'est que les filets perdus étouffent les récifs marins. Alors, pour eux, essayer de récupérer les animaux, ben, ils sont déjà couverts de filets et c'est pas pratique pour leur industrie. Alors, on voit un exemple de concern environnemental et de concern commercial qui viennent ensemble pour protéger l'environnement. C'est bon.
Donc, qu'est-ce que Vous, idéalement, par exemple, qu'est-ce que vous auriez à proposer au gouvernement pour faire face à ce problème de façon plus efficace si les fonds existaient?
Ben, les programmes comme celui-là, qui essaient de récupérer des filets perdus, sont importants parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a encore des filets héritage qui sont là dans l'océan, qui continuent à tuer les animaux. Mais il y a les autres programmes que j'ai déjà vus qui fonctionnent très bien. Un des grands problèmes, c'est que souvent, dans les différentes juridictions, ça coûte cher pour placer les anciens filets dans la poubelle. Alors, dans les juridictions où les pêcheurs ont besoin de payer pour disposer de leurs filets anciens, les engins brisés, choses comme ça. Dans ces façons-là, on a plus d'instances où les pêcheurs jettent, abandonnent leurs engins de pêche dans l'océan. Et ça, c'est des programmes. On veut changer ces programmes. Alors, il y avait un programme dans Hawaii, Fishing for Energy, où les pêcheurs pouvaient donner leurs anciens engins à le gouvernement. Le gouvernement a donné les filets à un incinérateur et brûler les filets pour l'énergie, pour créer l'énergie pour l'île. Alors, c'était un bon programme pour
éviter.
Oui, c'est très bon. Et c'était un bon programme pour éviter les filets d'entrer dans l'environnement au commencement. Mais on a besoin souvent aussi des programmes de reportage. Alors, on veut des programmes où quand un pêcheur perd un filet ou un piège, il peut reporter à le gouvernement. Et le gouvernement a des bons records de ça et on peut mieux ramasser et mieux enlever le filet perdu.
Oui, ainsi, le cibler plus rapidement et puis, ben, voilà, éventuellement, peut-être le recycler, ce qui est une très belle initiative.
Oui, ça, c'est pourquoi on sait déjà qu'il y a un scène tournant dans le Nord Deal Tender. C'est là depuis 20 ans, on sait que c'est là, c'est sur une carte, c'est bon, on sait que c'est là, alors on peut l'enlever. C'est plus facile d'enlever un engin de pêche où on connaît, où la location ou la juridiction est connue. C'est plus difficile de chercher d'une façon random.
Oui, et encore, comme vous le disiez, ça se déplace très facilement. Ça peut parcourir des milliers de kilomètres que les poissons, eux, ne feraient pas.
Oui, ça, c'est une façon dont les engins de pêche perdus deviennent des liens pour transporter les espèces envahissantes. Alors, mais ce n'est pas non seulement des petits filets. Alors, il y avait une vidéo d'un programme de Coastness Australia. Et c'est une organisation c'est des pêcheurs et dont le temps où ils ne pêchent pas, ils ramassent les anciens filets, les anciens engins. Et il a pris plus de 6 différents petits bateaux pour enlever un grand, c'était un grand touffe de filets qui était 2 ou 3 tons de masse. Oh. Alors, ces boules de filets pour voyager des milliers de kilomètres, tuer des animaux, mais en plus transporter des espèces envahissantes. Et ça peut vraiment endommager l'environnement, non pas seulement d'une façon locale, mais d'une façon dans toute une région ou tout un écosystème.
Oui, et sur un long terme, c'est ça.
Exactement. Et l'autre que les personnes oublient souvent, et ça c'est pourquoi j'ai commencé à parler de la processus du yo-yo, que c'est non pas seulement les filets qui étouffent les récifs, mais ils peuvent récurer aussi. Alors, de cette façon, ils enlèvent tous les petits animaux benthiques, les animaux qui vivent à le fond de l'océan. Ils tuent tous les animaux d'une façon comme un bulldozer. Et ça, c'est vraiment endommager des animaux très délicats, et comme les courants mous et des autres animaux benthiques.
Oui, qui sont souvent en plus au début de la chaîne.
Exactement, oui.
Donc, on a eu aussi, malheureusement, cette nouvelle récemment par Ocean Asia qu'il y a encore de la pollution marine qui existe due au masque. Elle existe pour plusieurs raisons. Et puis, on a récemment vu cette vidéo de Ocean Asia qui montre que, comme nous en avions parlé il y a déjà 3 mois de cela, cela continue. Il y a des masques qui arrivent sur les plages en quantité effrayante.
Oui, alors, dans la fin de février, notre organisation a une plage de test où nous sommes en train de monitorer.
C'est l'île Soko, c'est ça? C'est bien ça? On parle de l'île Soko?
Oui, dans l'île Soko, nous avons une île où on étudie le plastique, la pollution plastique, la pollution maritime. Et on l'a fait en février. Mon partenaire a rencontré plus de 70 masques dans une petite section de plage de moins de 100 mètres. Et on continue de régler, de regarder, de visiter la plage. Et chaque fois, on rencontre des masques. Alors, et ça continue depuis 3 mois. Alors, ça, c'est un grand problème. Et ce qu'on essaie de découvrir, c'est pourquoi les masques arrivent là-bas. Et c'est vraiment les problèmes avec le système de poubelle. Et alors, c'est selon nous, on encourage les gens de porter des masques réusables s'ils peuvent. Ce n'est pas tout le temps où les gens peuvent porter un masque réusable, s'ils sont dans un contexte dans un hôpital, quelque chose
Oui.
comme ça. Mais si possible, porter un masque réusable parce que ça va arrêter les masques d'entrer l'environnement marin. Et comme les filets fantômes, le plastique de l'environnement endommage les animaux de toutes différentes façons. On veut éviter, c'est plus facile d'éviter les plastiques d'entrer l'océan que c'est d'enlever de l'océan.
Docteur Tinfelf Bandarov, directeur de recherche pour Ocean Asia, merci d'avoir pris le temps de nous parler de la pollution marine qui existe malheureusement et surtout à différents niveaux, différents lieux.
Et toujours un plaisir de parler avec vous et tout le monde porte des masques réusables, s'il vous plaît.